Bonjour, vous écoutez Amina Quel âge pour l'émission Ça va parler, des infos sans prétention, des chroniques avec passion, c'est notre émission.
Ça va parler.
Presque 10 ans les séparent et pourtant, Iliès et Lamine foulent avec brio les pistes comme les tapis rouges. Iliès, tu es un ancien boxeur professionnel, à l'âge de 10 ans tu portes les gants et tu débutes une carrière que tu arrêteras 13 ans plus tard. Pas assez de résultats pour un sport ingrat, en dépit de tous les sacrifices, mais tu n'arrêtes pas le sport pour autant. De là, c'est accentuer ton amour pour les challenges, parcourir toute la Tunisie avec ton papa, faire 24 heures de vélo non-stop, pratiquer un jeûne hydrique d'une semaine, fouler l'hexagone avec bientôt un Paris-Marseille, Iliès l'inarrêtable, Iliès the challenger, et tu avances dans l'adversité avec le plus beau des sourires. Alors, comment est-ce qu'on passe de la boxe à des défis tout aussi surprenants et physiques les uns des autres ?
Coucou, merci de m'avoir invité, c'est magnifique. Ouais, comme tu as dit, voilà, je m'appelle Iliès, j'ai 32 ans et j'ai arrêté la boxe, donc j'avais 22 ou 23 ans il y a une dizaine d'années en arrière. Et moi, je me voyais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui dans l'épanouissement, etc., etc. Même il y a 2-3 ans en arrière, je ne m'étais pas lancé là-dessus du tout. À l'intérieur de moi, je ne pensais pas du tout à ça. Et c'est ce confinement-là,
qui a tout révélé.
Cette période, ouais.
Voilà, cette période difficile, etc., qui m'a mis, comme la plupart des Français, etc., sur le premier confinement, on n'avait pas le droit de bouger, on n'avait rien le droit de faire. On avait uniquement le droit, non pas de travailler, mais de sortir un petit peu s'aérer. Et là, on avait open bar. Pour nous, les sportifs, tout le monde était devenu sportif, tu te souviens ou pas?
Tout le monde s'est mis à courir. Ça, c'est le truc de tout le monde s'est mis à courir, c'est vrai.
Il y avait des vidéos sur les réseaux, en plus, ça tournait. Et c'était incroyable.
C'était dingue. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me révéler, en fait, que c'était ma passion, en fait. C'était ma passion et je ne pouvais vivre que de ça, de courir constamment. Je me suis mis là-dedans petit à petit, en faisant un marathon, un Paris Deauville et de fil en aiguille jusqu'à que, comme je dis tout souvent, l'appétit vient en mangeant, que je me suis mis à envisager de courir l'incourable Paris-Marseille.
Mais c'est quoi qui t'anime justement quand tu fais ces challenges? Parce que par exemple, si je demande à Lamine, est-ce que tu dois faire ça demain? Est-ce que tu le ferais?
Moi, je fais du foot. Moi, c'est football, moi.
C'est tout aussi bien, c'est tout aussi bien un sport d'équipe.
Je peux pas, etc. Ça, c'est trop hard. Ça va trop dans l'extrême.
Parce que ça reste enfin, des challenges, je dirais pas extrêmes, mais si, en vrai, c'est extrême, tu vois. C'est
tu quand dirais même, pas extrême, ah bon?
Non, c'est extrême, c'est extrême. En fait, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est extrême.
En fait, je pense que je pourrais le faire si j'ai un objectif derrière, un grand objectif. Mais là, à l'heure actuelle, le faire toi comme une passion, ça serait vraiment, vraiment compliqué pour moi.
Ou sinon, je crois qu'on peut tous se faire si on a Iliès derrière une gueule dessus.
On se rejoint peut-être dans la manière de procéder parce que j'ai un grand projet qui est né au départ. Moi, j'avais fait donc, je faisais plein d'aventures à vélo au tout début du confinement. Vu qu'on n'avait plus de salle de sport ouverte, je ne pouvais plus aller à la boxe, etc. Je devais me défouler. J'ai commencé à faire tout un tas d'activités sportives autres que la boxe pour me libérer toute mon énergie, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de plus en plus de plus grandes distances. Moi qui avais l'habitude de tourner dans mon stade au Buttes-Chaumont, dans le 19e, etc. Et dès que j'ai commencé à faire de grandes distances à vélo, dans ma tête, j'ai commencé à conscientiser, à normaliser en fait.
Un projet.
À me dire, si je peux faire 500 km, 1000 km à vélo en une semaine, machin bidule, je peux faire 100 ou 200 km en courant. Ça a commencé comme ça, les grands chiffres en fait, les grands nombres. Et de là, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire de Paris à la mer, la Manche, Paris-Deauville. Ça me semblait faisable, 217 km à peu près de la Tour Eiffel, par le chemin Google Maps. J'adore ce chemin, il fait passer par les champs, par la boue, ouais. Par les forêts, par les rivières.
Il te dit le moment, quoi.
C'est incroyable, il te fait passer entre deux chemins où les gens ils sont en train de faire de la pétanque. C'est génialissime. Bref, et je rentre là-dedans. C'est la première fois que
j'ai une petite question.
Allez.
Mais tu vois, quand tu fais des choses comme ça, des courses, ça veut dire que tu fais beaucoup de rencontres alors?
C'est ces moments-là, justement, Lamine, qui me motive et qui me permettent de continuer à avancer, en fait. Parce que je me dis, j'ai rencontré ce mec-là, si je n'avais pas fait ça, je ne l'aurais jamais rencontré. Par exemple, à un moment donné, je suis sur le Paris-Deauville, ma première grande aventure en courant. courant, marchant, boitant, parce que je ne suis pas constamment en train de courir. Il y a des moments où je suis dans le dur, 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 et je marche en boitant. Et après, je commence à courir comme un espèce de canard. Et après, petit à petit, le corps, il arrive à trouver la solution, parce qu'on est fait, en fait, pour survivre, en fait, depuis des millions d'années. On a la morphologie, tout est en nous. Avant, on n'avait pas d'ostéopathe, on n'avait rien du tout. Hein. Ouais. On se soigne par la marche, en fait. On se soigne par la marche, et petit à petit, le corps, il trouve une solution. Bref. Et je tombe à ce moment-là sur ma première journée. J'avais décidé d'essayer de le faire en 3 jours, le Paris-Deauville, 207 km, en m'arrêtant le premier jour entre la Tour Eiffel et Évreux. Après, je savais qu'à Évreux, à 100 km plus loin que la Tour Eiffel, il y avait un hôtel. Et d'Évreux jusqu'à Deauville, il y a une grande forêt. Ça s'appelle la Coulée Verte là-bas. Elle est connue pour ça. C'est un chemin où il n'y a que les vélos qui ont accès. Donc, c'est ultra safe. Je peux même commencer à 2h du matin. Je suis au milieu de la forêt avec du goudron, voilà, un petit morceau de goudron sur 1,50 m de large pendant 100 km. C'est bon, je suis en sécurité. Et de là, en fait, tu sais que tous les 5-10 km, ça traverse un village et tu rencontres des gens, etc. Et à ce moment-là, je rencontre des gens de la SNCF, de la voirie, etc. Et le mec, il a un petit... je ne sais pas comment on appelle ça, une espèce de trompette, ouais, en corne. Et c'est les mecs qui sont habillés tout en orange, tu les vois partout de façon habillés en orange, etc., avec tous les derniers gadgets, les derniers casques, etc., etc. Et le mec, je lui dis, mais pourquoi tu as une trompette? Il a dit, j'ai gardé ça en souvenir. C'était à l'époque pour annoncer qu'il y avait un train et tout. D'accord. Et il me le fait souffler. Le mec, il s'appelait Jean-Noël. Et moi, j'étais parti pendant la période de décembre. Il caillait de ouf. Il me l'a offert en cadeau. C'était un tas de trucs, ouais, comme ça, en fait, qui te dis, si j'avais pas vécu ça, ça aurait été...
Pas rencontré de belles personnes, quoi.
Exactement. J'arrive à un moment, je crois que c'était à mi-chemin avec vers Mantes-la-Jolie. J'arrive à cet endroit-là, il y a plein de détails. Tu commences à me demander des détails, je vais continuer, je ne vais pas m'en sortir. À Mantes-la-Jolie, ouais, je suis KO de dingue, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ou pas. Et je tombe sur une mosquée, je tape mosquée, c'est pile poil sur la route, je ne veux pas me détourner de mon chemin Google Maps, justement, plus trop possible. Et je tombe sur une mosquée, cette mosquée-là, c'est une association en même temps, ils ont plusieurs étages. Et ces gens-là, extraordinaires, ils nourrissent la veuve et l'orphelin, c'est en même temps un orphelinat, etc. Ils m'accueillent, il faisait super froid, donc période de décembre. Ils m'accueillent, ils me réchauffent. Je suis arrivé pendant la prière de Dhuhr, etc., etc. Ils me donnent une énergie extraordinaire pour pouvoir continuer.
Ouais, tu te ressources, ouais, en fait, de terrain.
Mentalement.
Ouais. Moi, je me suis dit, j'ai eu de la chance. Je leur dis, j'ai de la chance de pouvoir... tomber sur une mosquée ouverte, etc. Ouais. C'est la période de confinement, blablabla. Ils me disent, on est la seule mosquée de France ouverte 24 heures sur 24. Et il a fallu que je fasse cette aventure en courant pour les rencontrer.
C'est ouf, hein.
Et tout un tas de choses comme ça. Par contre, dès que je suis arrivé, je devais le faire en 2 jours dans ma tête, 100 km, 117 km. Je ne pouvais plus marcher le lendemain, j'étais mort.
Ouais.
Enfin, façon de parler. Et je me suis dit, c'est la pire expérience que j'ai vécue physiquement parlant. C'est la première et la dernière fois. Je vais quand même terminer parce que j'ai dit que je le ferai. Au lieu de le faire en 2 jours, je le ferai en 3, c'est pas grave. Même si j'en prends 5, c'est pas grave. J'ai vécu ça. J'ai connu cette adrénaline, cette souffrance, tout ce que tu veux. Mais c'est la première et la dernière fois. C'est trop de souffrance, en fait. Moi qui venais du vélo juste avant à faire des milliers de kilomètres, ça défilait super vite. T'es assis, tu mets un coup de pédale, ça bombarde. Et je tombe sur faire 1 km en 17, 18, 20 minutes quand j'étais vraiment KO. Et je ne voyais pas les journées défiler. Pff, c'était trop gavant, en fait. C'était trop de souffrance, en fait, pour un petit peu de kiff.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est la première et la dernière fois. Je reviens 2-3 semaines après sur l'aventure, tout ça dans ma tête. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Il y a une graine qui a été semée dans mon cerveau. Et je me suis dit, mon esprit de challenge, etc., d'aventure et tout, il m'a dit, il faut absolument que tu retrouves des gens qui ont une cornemuse, qui ont une mosquée, qui ont une ceci, qui ont une cela. Ils vont donner, ouais, ils devront donner mille et une expériences. Et petit à petit comme ça, je me suis retrouvé au mois de mai à faire 1253 km en Tunisie avec le Padre et réussir à ambiancer des gens autour pour qu'ils créent des challenges aussi.
Et justement, est-ce que c'est lui qui t'a motivé à faire tout ça?
D'une certaine manière, peut-être que je... Il y a certaines personnes, entre guillemets, prédestinées par le fait que leurs parents soient sportifs. Je ne sais pas si Mozart, il avait des parents qui faisaient de l'accordéon, ou je ne sais pas. Ouais.
Tu sais, non, mais c'est vrai, l'univers, en fait, l'entourage influe, mine de rien. Ouais.
Mais moi, j'ai commencé du coup la boxe à l'âge de 10 ans. Et j'étais avec mon entraîneur, paix à son âme, Jean Roche, un entraîneur très connu dans le milieu sportif en Ile-de-France. Et ce mec-là, en fait, c'était pour que tout le monde le sache, dans la boxe comme dans beaucoup de milieux sportifs, les gens généralement qui bossent là-dedans, c'est comme des bénévoles, en fait. Ils font ça parce que c'est des passionnés, etc.
Ah, il n'y en a pas beaucoup qui sont rémunérés ?
Il y a ceux qui ouvrent les gardiens de gymnase, etc. Et eux, voilà, ils sortent pas trop du cadre. Mais il y en a énormément, je ne vais pas te dire de chiffres exactement en pourcentage, mais il y a beaucoup de messieurs qui sont là bénévolement.
Parce qu'ils en ont envie.
Exactement. Ils veulent transmettre. Ils veulent, et justement, moi, cet entraîneur-là, il m'a apporté ce que nous, les parents, généralement, rebeux, on n'apporte pas trop. C'est des preuves d'affection, des preuves d'amour, en fait. Nous, là, moi, ce mois-là, mon père ou ma mère, ils n'ont jamais dit. Moi, quand je voulais faire un câlin à mon père, il me repoussait du coup, genre, va jouer là-bas, je vais te casser ton gueule. Et mon entraîneur, Jeannot, il nous attrapait, il nous mettait des totards, il était constamment dans l'affection, tout le temps. Il nous poussait à croire en nous, ouais. En fait, tu vois. C'était ça, il transpirait l'amour et il transpirait le partage. Il m'a donné ces codes-là et il m'a appris aussi à décrypter l'amour de nos parents, en fait, et à comprendre et à accepter qu'ils nous le donnent différemment, ouais, etc.
C'est ça, c'est
tu
un
vois
amour qui est différent.
C'est différent, c'est l'amour des parents, c'est inatteignable, etc. Mais il a commencé, voilà, petit à petit à faire justement ces fameuses germes dans le cerveau qui m'ont fait me dire non, c'est pas possible que... De ça, une fois que j'ai arrêté la boxe à 22 ans ou 23 ans, je ne me souviens plus, ça se comptait. Voilà.
À mon âge, quoi.
Voilà.
Les fiches sont bien notées. Et j'ai mis en stand-by et je suis resté bloqué après ma fin de carrière de boxe. Je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un marathon. Et il n'y avait rien au-dessus de marathon. Tu sais, tu as toujours ce système. Ouais, après le marathon, c'est ultra. Tu fais des ultras. Et les mecs, tu crois que c'est des extraterrestres et tu vois pas, il est où le kiff, parce que c'est que de la souffrance, en fait. Un marathon, un certain nombre de kilomètres, etc. Et de fil en aiguille, tu te rends compte, en fait, que ton corps, il se consolide. Je pensais pas ça. Moi, je dis toujours à mes amis, on est des scientifiques de notre propre corps. Faut pas écouter les médecins, faut pas écouter... Un minimum, bien sûr, oui. Tu vois. Écoutez les médecins. Bon, j'ai 5 prix aigus.
Après, ils vont dire, Ilyes, il a dit qu'il fallait pas qu'on écoute les médecins.
À sa juste mesure. Sinon, on fera jamais rien.
Avec des pincettes, quoi.
Exactement. Il faut essayer.
Il y a un diagnostic, mais il est différent selon, en fait, chacun, quoi.
C'est ça.
Complètement. Bah, là, dès qu'il s'est passé le premier confinement, il y a 2 ans en arrière, à aucun moment dans mon cerveau, et je m'étais dit... Un jour, je courrais de manière certaine le Paris-Marseille. Okay. Je ne sais pas si je vais le réussir, tu vois. Avec mes amis, ces deux personnes extraordinaires, Ahmed et Ibra, c'est incroyable. Mais je ne m'étais jamais dit ça. Et l'appétit venant en mangeant, de défi en défi, ouais, une étape après l'autre, tout se met en place, en fait. Et c'est pareil pour le corps, où je ne me suis jamais dit, ce corps-là qui souffre sur le marathon, faire 42 km, il galère de dingue, il va réussir à en faire 70, 10 jours de suite, 20 jours de suite.
Mais comment tu récupères, justement? Parce que ton corps, du coup, il souffre. Comment tu récupères tes articulations, tout ça?
Comme tu as dit au départ, j'ai fait le jeûne de l'eau.
Ouais.
C'est...
Donc, il a jeûné une semaine dernièrement. C'est que les gens comprennent aussi. Non, mais ça me choque toujours autant. Mais... Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas une question d'eau, c'est qu'il n'y avait pas de café. Moi, je ne peux dur. Pas démarrer sans café.
Moi, c'est la dur. Chose qui me choque le plus dans ce que tu m'as dit par rapport à ce que tu as fait. Une semaine de jeûne sans manger rien.
Je te montrerai un reportage sur Arte, ça s'appelle « Le jeûne hydrique ».
Moi, je l'avais vu.
Et
mais
ça...
il m'a pas donné envie comme toi.
Ah ouais?
Enfin, il motive, tu vois. Mais de là à me dire « Allez, je vais tester une semaine. » Je peux tester 2-3 jours. Je m'en sens capable, tu vois, 4 jours à la rigueur. Mais toute une semaine, voilà, je sais pas, à tester.
C'est, c'est, euh, c'est, ce que je recherche, moi, en fait, moi, par exemple, sur le Tunis-Zarzis, donc 500 km, moi, je devais faire juste 500, je ne devais pas faire 1253.
Ouais.
Ça aussi, c'est un truc. les challenges, ils se succèdent, mais.
Ouais, mais c'est pas dans ce là que ça a doublé.
Ouais, c'était un peu plus. Et ce délire-là, en fait, dès qu'il s'est passé ça, je ne m'étais pas dit, donc je vais faire ceci, cela. Sur un jeûne hydrique, il faut laisser l'espace au corps et le laisser réagir. Et c'est ça qui est le plus difficile. Moi, j'en suis donc à mon quatrième jeûne hydrique, donc boire que de l'eau, pour laisser le corps réagir et traiter, comme je disais tout à l'heure en off, le jeûne de l'eau, ça te permet en fait pour la première fois de ta vie d'avoir le système digestif au repos et qu'en fait ton corps, il est enfin pour la première fois le temps de s'occuper des problèmes que tu as accumulés toute ta vie, que tu n'as pas eu le temps de gérer. Ils ont été stockés un peu partout. Du coup, moi, j'ai toujours eu des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, etc., etc. Et à ce moment-là, sur le jeûne de l'eau, c'est pour ça que je le fais constamment. Vous ne me verrez peut-être pas sur Insta ou quoi, mais je suis maigrichon. Vous me dites pourquoi je ne mange pas pendant une semaine. Je saute 3 fois 7, 21. Je saute 21 repas. Pourquoi ? Tu n'as que la peau sur les os. Mais c'est justement pour ça. C'est parce que mon corps, il a besoin de s'occuper des articulations, il a besoin de s'occuper du sommeil, etc., etc. Et là, je vais laisser le temps. Et sur, je ne le pensais pas en fait auparavant, mais les os se consolident. Tu savais ça ?
Non.
Tu te dis, mais pourquoi dans ce cas-là, si tu peux avoir des os plus durs, pourquoi ils ne sont pas durs dès le départ ?
Ouais.
C'est ça qui est dingue. Et ils se consolident en fonction de ce que tu leur donnes à faire ou pas.
Ouais, non,
ils
se ramollissent. Il faut du calcium, quoi.
C'est simple.
Ouais.
Ce qu'il te faut, en fait, t'as l'habitude de l'avoir en fait en mangeant ou en buvant. Il te faut plus de protéines, tu vas prendre de la spiruline. Il te faut plus de si tu vas prendre du jus d'orange. Alors que tout est en nous. Tout est en nous. Et c'est par le biais du jeûne de l'eau, par le biais de courir.
Mais t'as une potion magique quand même.
Elle est à l'intérieur. La potion magique, oui, c'est l'apsis.
Moi, j'ai vu la recette. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
L'apsis de l'or.
Que ta maman prépare, du coup.
Exactement. C'est tout un tas de petites choses simples. Tu regardes le Kenyan là, qui a gagné, pour encore une fois, Eliud Kipchoge, qui a gagné le marathon. Il va lui aussi dans ce sens-là. Les choses simples et que tout est en nous, en fait. Il a dit que sur les 10-15 ans où il a dominé la catégorie reine, même là pendant les JO, c'est en fait la simplicité. Il prend exactement la même chose depuis le départ, du blé, de l'eau, des choses simples qu'on a en fait en nous ou à proximité et qui permettent de faire, tout est là. On essaie à chaque fois de rajouter ceci, cela, les meilleures paires de chaussures, les meilleurs tout est en nous et c'est à nous de lui redonner les clés. Moi, donc, je te disais sur le Tunis-Zarzis, j'avais appelé ça la route vers mes ancêtres, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça. En fait, j'essaye à travers les différents challenges que je mets en place de redonner la place à mon corps, en fait. Petit à petit, il va trouver la solution pour se consolider et m'apporter, en fait. Et est-ce que, pour en venir à ce que tu disais au tout départ, mon cher ami Lamine, t'as dit, moi, je pourrais pas, à part si je vise quelque chose de grand. Et je le pensais pas il y a 2 ans en arrière, donc dès que j'ai commencé à faire le Paris-Deauville, je pensais pas, mais là maintenant, dans ma tête, il est possible. Je te dis ça à la fin du Paris-Marseille.
Ouais.
Mais dans ma tête, il est possible.
Que inconsciemment, tu t'es dit, c'est le Paris-Marseille mon grand objectif.
Plus que ça.
C'est quoi, le monde ?
Le monde est à lui.
Ça s'en va, voilà.
Dédicace à ça.
C'est vu que moi, je suis parisien, que je suis né à Paris, j'y suis depuis toute ma vie. Ça n'empêche pas que j'ai quand même beaucoup voyagé pour me rendre compte à quel point Paris est magique, bien sûr.
Toujours, toujours.
Et Nanterre, il ne faut pas oublier Nanterre.
Merci.
Bien sûr.
Nanterre est magique.
C'est que maintenant, je pense qu'il est, c'est faisable de faire, pour le corps humain, de faire un Paris, la Mecque, en courant. Ça, c'est un objectif.
Paris, la Mecque. Là, mais il y a la mer et tout ça. Tu vas courir sur la mer.
Non, justement, tu vas prendre le bateau quand même. Ça, je sais pas si ça compte de la triche ou pas.
Je sais pas.
Et avec les zones.
Bon, en vrai, je pense que c'est faisable.
Là, il va nager. Il va faire un.
C'est
je sais pas comment on appelle ça, mais.
Ça fait 5000. Parce que t'as pas le choix. tu peux plus aller comme à l'époque.
Ouais.
La route de nos ancêtres, bon, eux, ils commençaient, par exemple, pour moi, les Tunisiens, ils commençaient par la Libye, l'Égypte, etc. Ouais. Donc, c'est moins, c'est 2500 ou quelque chose comme ça, ou 3000. Mais en passant par Paris, par le haut, quand tu fais la Turquie, maintenant, vu que c'est une zone de guerre, etc., tu ne peux plus descendre par la Syrie, le Liban, etc. Tu es obligé de contourner, de continuer, en fait, au lieu de descendre, dès que tu arrives en Turquie, tu vas au fond de la Turquie, Antalya ou je sais plus encore plus encore plus loin et tu descends tu longes l'Iran quelque chose comme ça pour revenir à la fin en Arabie Saoudite et ça fait 5000 et quelques kilomètres quand t'entends 5000 kilomètres à courir tu dis comment un petit corps d'asticot juste avec la psyché et l'amour des gens il peut le faire mais en fin de compte quand tu regardes pas le gros chiffre tu regardes étape par étape encore une fois il faut que je me rapproche quand tu regardes étape par étape tu te dis si tu fais 50 km pendant 100 jours,
ouais.
Ça fait 5000 en fait.
Mais tu vas pas t'arrêter à faire 50 km.
Peut-être je vais en faire 75 pour représenter Paris chaque jour. Je le ferai
92
en
bon. Ah, pour représenter Nanterre.
Ouais, oui, non, je suis pas assez fort. Heureusement que j'ai vu dans le 75.
Je suis pas d'Armoise.
C'est ça. Tu vois, en fait, quand tu rentres dans des projets ouais. comme ça, difficiles, entre guillemets, moi je te parle pour mon expérience à moi, sur le sport, ça peut être reproductible dans la vie professionnelle, etc. Le fait de trouver à chaque fois des exemples à côté de toi qui ont fait beaucoup plus que toi, moi j'ai vu un mec qui fait 100 km par jour pendant 100 jours.
Ah ouais.
Il a traversé les États-Unis. 5 jours après, il va au Canada, il prend l'avion et il refait encore 100 km par jour pendant 100 jours. Et ce mec-là, pour te donner un ordre d'idée sur le contrôle sur soi qu'il a, ce monsieur, il doit avoir une cinquantaine d'années, tu vois. Il a cassé tous les codes. Ouah, t'es trop vieux, ouah, nanani, ouah, nanana. Ce mec-là, il lui restait 5 km pour finir la traversée des États-Unis.
Ouais.
Du Canada. Il lui restait 5 km pour arriver à faire ses, justement, 100 km par jour. Il se casse un os du bassin. Il termine avec l'os, avec le bassin fracturé. Il a quand même décidé de terminer avec le. Donc, c'est-à-dire que quand tu sais cette information-là dans ton cerveau, tu normalises que toi qui as un problème, que ton ischio il te tire, tu dis mais on s'en fout complètement. Ouais. Le mec, il a couru avec un os cassé, tu vois. Ouais. Okay. Ouais. Et il a couru 100 km dessus. Et
c'est mental en fait.
Exactement. Ouais, ça te fait normaliser
c'est mental,
que.
Mais voilà. C'est aussi le pourquoi. Parce que là, on comprend le comment, mais le pourquoi tout ça, en fait
c'est un plaisir.
Ouais.
En fait, voilà, plus tu vas courir...
Non, mais c'est un plaisir extrême, tu vois.
C'est pas tout le monde qui va faire ça.
Ouais, voilà.
C'est un bonheur extrême. Comment tu peux ne quand tu dis c'est extrême, c'est dans les deux sens, en fait. Plus moi, je vais souffrir...
Plus tu vas aimer.
Plus je vais libérer d'endorphines.
Ouais.
Plus je vais être sur un nuage incroyable, en fait. Et le fait justement d'avoir ce parallèle-là, et deux mondes différents parce que tu es constamment en train de vivre des choses que tu n'as jamais vécues à travers tes yeux et à travers ton corps. Tu ne l'as jamais vécu ça. Chacune des épreuves que j'ai faites, c'était la première fois que je faisais vivre ça à mon corps. C'est de nouvelles chaussures, c'est un nouveau terrain, c'est ceci, c'est cela, c'est un nouveau climat. Et à chaque fois, c'est différent. Et tu passes de ça, 5, 10, 15, 20 jours de kiff, extrême comme tu me dis, donc de souffrance et de bonheur entremêlé, c'est ouais. génial, à revenir à la vie classique. Moi j'ai un garage ici, j'ai un garage à scooter familial, tu es là, tu vas au boulot, tu retournes au boulot et à 9h du matin tu es là jusqu'à 19h. C'est différent parce que tu es tout le temps en train de changer des scooters différents, t'as des clients différents, etc. Mais t'es sur quelque chose
que tu connais,
qui est pas extrême, que tu connais. Et
ouais, donc c'est un équilibre en fait.
Okay. Et on en parlait au départ, c'est il faut de ça parce qu'il faut que tu te reposes aussi.
Bah oui.
Il faut que tu te reposes. Et il faut de ça en fait pour te dire mais il faut quelque chose de plus. Et dès que t'es dessus, dès que t'es dans la difficulté absolue de courir chaque jour, tu te dis j'étais bien aussi dans mon canapé. Ouais.
De toute façon, tu m'as dit hier, avancer sans adversité, c'est fade.
Répète-moi.
Moi, je trouve ça génial. Avancer sans adversité, c'est fan.
Oui, complètement. C'est un non-sens pour moi. J'arrive pas. J'ai vécu comme ça, en fait. Ça dépend de chacun comment il a été formaté.
Bah, t'as fait de la boxe, en
c'est
plus.
C'est ça. Depuis l'âge de 10 ans, c'était soit, en fait, je me faisais taper et j'arrêtais la boxe, en fait. Soit j'acceptais pas de me faire taper et je gagnais. Donc, il fallait que j'accepte l'adversité. Ouais. Et j'ai vécu ça, et j'ai normalisé ça, et j'ai automatisé ça. Pas pour devenir le meilleur, mais pour survivre dans mon monde. Et ce truc-là, ça m'a poursuivi, et ça me poursuit encore aujourd'hui, de... T'es obligé de passer par ça, te confronter constamment.
Ouais.
Si tu te confrontes pas, en fait, c'est quoi l'intérêt ? Si t'es sur le train-train, machin, etc., c'est difficile. Il y en a, ils aiment beaucoup ça. Il y en a, c'est leur... Moi, peut-être moi le premier, j'ai des phases dans ma vie. Par contre, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a 40 semaines dans l'année, de 55 semaines ou je ne sais plus combien,
52
semaines. Bon, alors peut-être 42 semaines, alors, ouais. où je suis, donc soit tout le temps en train de manger, soit tout le temps en train de travailler tranquillement, et je suis très très bien comme ça. Mais j'ai besoin.
Oui, il te faut en fait une période
où
qui, ta dose entre
voilà okay. pour que l'année elle soit bien passée
okay.
faut qu'il y ait ça il faut ces quelques petits jours là tu vois
ouais.
spéciaux
mais est-ce que tu penses que plus tu vas grandir on va pas dire vieillir mais plus tu vas grandir et plus est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ou tu sens que tu vas être rassasié ou à ton avis parce que attends 500 à 1000 ensuite 1000 à 5000 après c'est un tour du monde en fait
complètement après voilà. Moi, c'est un projet que j'ai. Je sais qu'il y a plusieurs étapes à passer entre à peu près 800 km Paris-Marseille à 5000. C'est énorme le palier qu'il y a entre les deux. Mais ça, c'est le projet dans ma tête que j'ai final.
Ok.
Dans mon cerveau, mais
le but ultime.
Ultime, ouais. Complètement.
Donc un Koh Lanta et un Pékin Express, c'est easy pour toi en fait.
Je sais pas. C'est des aventures que j'aimerais beaucoup beaucoup faire. Après. L'aventure que j'ai vécue avec mon père là, qui me suivait à vélo, c'était ça m'a donné tellement tellement envie justement de faire Pékin Express parce que
Pékin Express c'est formidable.
Je m'entends, ouais. Je me suis rendu compte que je m'entends pas du tout avec mon père.
Moi j'ai posé la question, ça vous a pas justement rapproché?
Ah oui, tout. ça nous a lié de dingue. Juste avant, t'as bien vu, j'étais au téléphone avec mon père, ouais. etc. On est souvent en contact. Avant, on avait beaucoup de mal à s'appeler. Moi, dès que j'appelle mon père, ça dure 4 secondes. Oui, les clés, elles sont où? N'oublie pas, il y a à manger derrière le machin. Et hop, on a accroché. Et là, maintenant, on commence à parler beaucoup plus ensemble, etc. Ça nous a beaucoup reliés.
Ça a été votre thérapie, entre
guillemets. Bien sûr. Et lui, par exemple, dès qu'il courait derrière moi, dès qu'il était à vélo derrière moi, toute la journée, il y avait beaucoup, beaucoup de moments dans la journée où j'arrivais plus à courir, j'avais trop mal aux pieds en fait. C'est là que sur quoi tu tapes toute la journée, c'est tes pieds en fait. C'est eux qui absorbent le plus toute la journée, le choc, c'est les pieds. Et mon père en fait, toutes les 15, 20, 50 kilomètres, je m'arrêtais et je levais les jambes en l'air pour que le sang circule dans l'autre sens. Et mon papa, il s'occupait de masser la plante des pieds. Et il appuyait exactement au millimètre près où est-ce que j'avais mal. Au millimètre. J'ai dit, mais Baba, comment tu fais? Comment tu fais? C'est magique. Parce que dès qu'il appuyait là-dessus, 2 minutes après, je me relevais, je me remettais la crème sur mes pieds et je remettais mes chaussettes. Hein, je me remettais en selle et je recommençais à courir.
Comme si c'était la première
comme
fois.
Comme si ouais. je recommençais à zéro. S'il me faisait un reset de dingue, comment tu fais? Il me dit, mais y a cheval, depuis tout à l'heure, je suis derrière toi, ça fait 20 km que je regarde comment tu cours. C'est ça, en fait. Il voit que ça. Et lui, en fait, je ne me rendais pas compte, le travail qu'il faisait en arrière, c'est que non seulement il demandait au véhicule, lui, il se mettait un peu plus sur la gauche que moi pour demander au véhicule avec la main
de
s'écarter. Il regardait... est-ce que je commençais à boiter plus à droite? Il me dit fais gaffe. Et je ne me rendais pas compte parce que parfois, quand tu cours, tu es constamment en fait, en train de combattre les idées qu'ils sont en train de te dire parce que le corps aussi, il est paresseux. Surtout, comme je t'ai dit, moi, ça fait qu'il y a 40 semaines dans le mois où je suis pépère. Donc, il y a ces 40 semaines-là qui me disent Ilias, c'est bon, SAB, repose-toi, ça suffit. Je te jure,
arrête.
Tout le temps, tout le temps. Et je les combats à travers justement écouter la musique super fort. super fort pour ne pas les écouter.
Ouais, donc ça, t'as une playlist aussi.
Voilà, j'ai une playlist de ouf. Ouais. Elle peut te faire aller super loin.
C'est
je te dis,
c'est quoi ton type de musique?
Bon, comme tout le monde, ouais. Tu t'écoutes Booba, SCH, n'importe quoi, etc. Mais des trucs qui te drainent. Y a des artistes connus aussi à Nanterre que je fascinais. Je les écoute et tout.
À Nanterre, ouais, t'as Doria. À Nanterre.
Doria.
Ouais, y a Doria. Ouais. Y a Bramso, l'Adem. Y a qui encore? Y a.
T'as Club 99.
J'allais dire ça tout de suite.
Je vais télécharger tout ça.
Y en a plein.
Doria, ça booste aussi. Hein, ouais.
Doria.
Du rap, ouais.
Allez, let's go, je vais tester toutes ces petites idées-là, ouais. Tu vois. Et il y a des fois, tu sais, dans le jargon des ultra-traders, ils te disent, il y a la vision périphérique, il y a plein de façons de procéder pour continuer à avancer. Il y aura des phases où tu seras tellement concentré sur au prochain kilomètre, il y aura des phases où ce qui va te motiver, c'est ton allure. Il y aura des phases où ce qui va te motiver, c'est de plus penser à ton corps et à songer à des choses et tout, tu vois. Et c'est pareil quand tu cours 2-3 km avec des amis et que tu es KO, le fait de parler avec eux, ça te fait complètement oublier que tu es en train de courir et tu oublies la douleur et tu continues à avancer. Ouais. Alors que si tu étais tout seul, tu ne l'aurais pas fait ou peut-être même tu ne serais pas sorti de chez toi, tu vois. Et c'est tout un tas de mécanismes comme ça que tu essayes d'apprendre à apprivoiser. Et ton corps, le kiff absolu, c'est quoi en fait? C'est que vu que tu fais des choses que tu n'as jamais fait, comme je te disais tout à l'heure, il est dans le noir constamment, en fait. Il ne sait pas et tu es constamment en train de discuter avec lui pour dire, essaye juste d'aller. Je ne te demande pas grand-chose. Tu vas juste au-dessus, 500 mètres, 1 km, au-delà de ce que tu connais et tu vois si tu peux ou pas. Juste, je te demande juste ça. Et lui, en fait, il va y aller. Il va voir qu'il n'est pas mort et il va commencer à te faire confiance. Et 1 km de plus, et 1 km de plus.
Et c'est comme ça que
tu
avances.
Et ouais. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est un truc. Il y a des fois, j'ai pas du tout envie d'avancer. Par exemple, il y a des trucs qui me motivent, c'est quand je suis claqué, j'ai plus envie d'avancer. Je regarde le regard de mon père qui me regarde sur le vélo avec, tu sais, le regard en coin et qui me regarde genre, père, mais comment j'ai pu faire naître une crotte pareille, t'es vraiment nul. Mais il me dit rien. Ça, c'est avec les yeux. Je me relève direct, j'attaque. Il y a plein de petites méthodes comme ça qui te permettent. Et je sais, c'est que une chose, c'est que un pas après l'autre, quoi qu'il arrive, hein, le fait que tu aies marché un mètre devant,
ouais.
Tu t'es rapproché de
ton objectif.
De ton objectif.
Ouais. Mais est-ce qu'un jour, tu as déjà eu le sentiment d'avoir raté un de tes challenges ou pas?
De rater?
Ouais, tu les as tous réussis?
Pas tous.
Ouais.
En termes de temps, moi, je me mets toujours des deadlines pour me motiver, faire des challenges dans le challenge, des trucs qui motivent. Comme là, par exemple, le Paris-Marseille, c'est cool de le faire. D'essayer de le faire, mais pour se motiver à essayer de le faire bien, au lieu de le faire en 15-20 jours, on va essayer de le faire en 10 jours. C'est un challenge. On s'est dit, voilà, si on peut le faire, ça ferait une moyenne de
80, hein.
Ouais, dans les 80 km par jour, tous les jours pendant 10 jours. Alors que moi, je sais que mon corps, il peut à peu près le faire, mais mes amis, ils ont 40 ans. Les deux, ils ont 40 et 42 ou 43 ans. Ils ont des enfants, ils ont une bonne situation, ils ont tout est fait en fait pour qu'ils restent dans leur cadre sécurisé où il n'y a pas justement ce aller dans le noir, voir comment ton corps y réagit. Et eux, ils ont besoin de ça en fait.
Mais là, du coup, il n'y aura pas ton père là à Paris-Marseille.
Là, il n'y aura pas mon père. Je serai leur père. il m'a formé à. Je vais courir avec eux, je vais courir derrière eux, je vais les masser, je vais les stimuler, je vais pas les lâcher. Et on sera tous le père de l'autre en fait. On est une équipe, on se connaît depuis justement, c'est des collègues de la boxe. On se connaît depuis toujours. On a souffert ensemble, on a transpiré ensemble. On va essayer. Et j'invite aussi ceux qui veulent venir faire 5-10 km ou une journée entière avec nous à nous rejoindre sur cette aventure-là. C'est le 3 septembre, départ de Paris. Je dirai ça sur mon réseau Instagram. Je peux le placer ou pas?
Oui, bien sûr.
Ilyes, The Challenger. Ilyes, I-L-Y-E-S. The Challenger, tout attaché.
Ouais.
C'est un mec qui pointe la Tour Eiffel le 3
Amine,
septembre.
T'es ouais. Dispo, hein. On m'a dit que t'étais dispo là, tout de suite à l'oreillette. On m'a dit Amine, Fatih est dispo. Oh. Non, tu seras pas en shooting.
Je serai en période de Fashion Week, je pense.
Ah, ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il y a la Fashion Week.
Ah, c'est génial.
Exactement.
Vive Paris, franchement.
On pourrait grave l'inviter, hein. Il passerait.
Ouais,
hein.
Pourquoi pas.
Moi, je suis persuadé. Hein.
Mais en tout cas, moi, ce que je voulais rajouter, c'est même si en termes de temps, c'est pas réussi, t'as besoin de ça pour. pour faire ton marathon ou ton footing, mais pour moi, c'est réussi. Que tu le fasses en 10 jours, en 100 jours, en une année même, pour moi, c'est réussi.
C'est ça.
Tant que tu es parti du point A à ton point B, pour moi, c'est réussi. Hein.
Simple. Et ouais. Tu vois, l'ami, il a 23 ans, il a une maturité de malade. Ouais. Je te jure, à ton âge, j'aurais pu être ton fils. C'est un truc de fou, ça me fait trop plaisir.
Ouais. Bah, non, mais en tout cas, moi, je te dis, grosse force à toi. Vraiment, je suis fort de tout cœur avec toi. Et je vais suivre tes aventures.
Venir courir.
Vraiment. Après, je peux venir courir, mais sur une petite.
Ah, c'est parfait. Moi, c'est tout ce que je veux. Ouais. Franchement, si du premier kilomètre.
Ils vont venir avec moi,
Paris, franchement, final.
On va tous y aller.
Ah, tu viens, c'est tu vois, c'est parfait.
Moi, je sais pas courir, mais je vais venir quand même.
En courant ou à vélo, c'est faisable. Si jamais il y avait, par exemple, du premier au 800e kilomètre de Paris jusqu'à Marseille, il y avait quelqu'un sur chaque kilomètre qui courait avec nous, qui se relayait machin.
Mais ça aide mentalement.
Mais ouais, ça aide.
Ça se permet de dire, ah, il est venu avec moi, ça te donne de l'énergie.
Et c'est ça, en fait. Moi, je me suis toujours dit, je serai plus fort seul. Je courrais plus. Je suis sûr d'atteindre ça seul, etc. Mais avec les aventures que j'ai faites par le passé, etc., je me suis rendu compte plus que jamais que tu as besoin des autres. Il y a une phrase qui dit tout le temps, seul tu vas plus vite, machin, blablabla, plus loin. C'est véridique à 600%. C'est même pas une question que tu vas plus loin, c'est tu as encore plus de bonheur à le faire. C'est ça, en fait.
Seul tu vas plus vite.
Et ensemble, on va plus loin.
C'est ensemble, tu kiffes la vie, en fait.
De toute façon, on n'est pas des êtres pour vivre seul dans tous les cas. Donc,
Je t'ai dit quoi sur le jeune Idrick ? Je suis fleur. C'est ça, il faut se transformer en fleur. Et c'est exactement pareil. On parlait justement, t'as un super potager là, autour de Radio Agora. Non, c'est génial. On capte les bonnes ondes, comme on disait, on capte les bonnes ondes et les mauvaises. S'il n'y avait pas d'ondes autour de nous, c'est super dur. Il faut trouver les ondes à l'intérieur de soi, ou à travers la musique, ou à travers le père, ou à travers les personnes qui nous accompagnent. Et c'est ce truc-là qui m'a fait me rendre compte à quel point les autres sont ultra importants pour qu'on continue à avancer. Si tu envoies des bonnes ondes, des sourires, etc., les gens, ils lèvent la main. Tu sais, j'ai fait des aventures à vélo avec des amis à moi sur... Paris-Marseille, Paris 7, Paris, j'ai toute l'Atlantique avec un ami qui s'appelle Hassan, extraordinaire. Et à chaque fois que tu souris à quelqu'un et que tu lèves la main à vélo, il te rend ça. Et ça te nourrit comme si tu avais mangé un Snickers. Ouais. J'ai mangé tellement de Snickers, tu savais ça. C'est plein de petites choses comme ça qui vont te permettre d'avancer. Si tu veux voir le bien, tu vas le voir. Et en même temps, là, je vais aller avec un ami à moi. Donc, les deux compères, c'est des personnes extraordinaires. Donc, j'ai juste dit leur statut à peu près. Moi, sur Instagram, je vais mettre les dossiers sur eux. Comme des fiches techniques sur Tekken ou machin. C'est leur point fort et leur point faible, tu vois. Et il y en a un des deux, il est extraordinaire. J'ai fait des aventures avec lui à vélo de fou. Il est prof de sport et lui, il est super pédagogue. Il ne jure que par les livres. Il connaît le corps humain de A à Z. Il a fait l'armée, etc., etc.
En fait, il y a de tout dans ton équipe.
Ouais. C'est ça. Il y a de tout. Et pour montrer, et justement, c'est ça qui est génial, c'est pour montrer que c'est accessible à tous. Ok, t'as des gosses, lui aussi, il en a des gosses. Ok, t'as un certain âge, lui aussi, il a un certain âge. Ok, ceci, ok, cela. Et ce mec-là, il a plein d'idées comme ça que voilà, si tu cours tant de kilomètres, tu casses ton corps. Si tu fais plus de 2 marathons par an, c'est pas bon pour la santé. Si ceci, cela, parce que tout ça, c'est écrit, en fait. Et moi, j'ai envie de le faire se confronter à la réalité de son propre corps à lui pour voir qu'il sache que c'est possible de continuer à avancer.
C'est pas parce que c'est écrit que, en gros, c'est la vérité. Ouais. Quoi.
Voilà. Je vais terminer là-dessus parce que là, j'ai fait un teaser de ouf.
Et justement, on va finir. C'est quoi ton rêve? En dehors de, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Paris, la Mecque, mais si t'avais vraiment un rêve, tu te verrais où dans, je sais pas, 10, 15 ans, un truc comme ça?
Alors, mon rêve, c'est chaque jour de faire des choses. Enfin, chaque jour, façon de parler. On n'oublie pas qu'il y a 40 semaines dans le mois ou dans l'année où je dois me ressourcer, c'est super important. Ça fait partie du processus, mais il faut que chaque fois que je me réveille, je fasse en sorte de ne pas regretter tout ce que je fais. de ne pas avoir de regrets. Donc je vais faire, quoi qu'il en soit, quelque chose pour ne pas regretter. J'ai vécu des choses dans ma vie, nanani, nanana. Je sais que la pire sensation que je puisse avoir, c'est de regretter. Et je n'ai pas envie de regretter, de me dire peut-être que j'aurais pu courir jusqu'à mon grand-père pour lui donner la force de continuer à avancer, lui qui a mal aux jambes en fait. Peut-être que j'aurais pas dû nanani, nanana. Et tout ça en fait, c'est des regrets que je ne veux pas avoir. Donc je fais tout ce qui se passe pour ma tête. Donc ces choses-là en fait, dès qu'elles arrivent à moi, elles se transforment en obsession. Donc je t'avais dit, dès que j'ai fait une Isarzis, je comptais absolument pas faire ensuite 753 km supplémentaires pour faire 1200 et faire le tour de la Tunisie. C'est une fois que je suis arrivé à Zarzis, j'ai eu une obsession, c'était de faire ensuite, de doubler la mise et faire tout le tour de la Tunisie. Ces obsessions-là, si je ne les fais pas, ça se transforme en regret. Donc je ne veux plus regretter, donc je veux me réveiller tous les matins sans avoir de regret. Mes obsessions, je les fais.
Okay.
C'est ça, c'est simple.
Bah, c'est génial.
En tout cas, merci. Hein.
Ouais. Merci plaisir, beaucoup, merci. Yes. Du coup, Lamine.
Bonjour.
Ça va?
Très, très bien.
Après tout ce qu'il a dit, ça va? Est-ce que tu te sens si. Prêt en vrai pour faire un challenge?
Un challenge, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure. Mais pas extrême.
Ouais.
Au point de faire Paris-Marseille. Par exemple, je peux faire Paris-Marne-la-Vallée peut-être en courant. Ou même à vélo, je peux le faire, je pense.
On va
parce qu'il y a, quelque chose dans mon quartier, ça s'appelle la promenade.
Ouais,
ils s'entraînaient tous les jours, ou une fois sur deux, je crois, par semaine. Et en gros, ils faisaient beaucoup de sport, etc. Les filles et les garçons. Et au final, ils ont un objectif où ils devaient aller à Marne-la-Vallée. Et un autre objectif où ils devaient aller à Deauville. Et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait.
Ouais, ils l'ont fait. L'année dernière,
c'était... À vélo.
Ouais,
vélo. Et ça c'est...
Ouais,
ça a commencé lors du premier confinement. C'est pour ça que je dis que le premier confinement, ou même les autres aussi, ils ont aidé
tu
certaines personnes.
Loin, en fait, tu
c'est ça. Tu donnes d'autres objectifs.
Il a créé des vocations. Hein, complètement.
C'est ça.
C'est magnifique.
Et même à l'heure actuelle, il y a encore. Des fois, il me dit viens et toi à la promenade. Parce que des fois, moi, je prends peut-être 3-4 kilos qui font que j'ai un peu de. Parce que je dois être très fit et je dois garder mon poids. Donc, c'est-à-dire, des fois, je prends 3-4 kilos en plus que je ne dois pas prendre. Il me dit ok, bah viens. Et je viens dans une période, je viens, je fais du sport, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que je fais beaucoup de foot. Donc ça fait que je prends un peu des cuisses parfois. Donc
il faut pas,
j'ai besoin de la promenade. Et il ne faut pas.
Mais là, tu sais, moi je parle de faire des pas dans le noir, dans le néant, et forcer encore un peu plus son corps à aller et voir comment il réagit, etc. Mais lui, ce qu'il fait, notre ami Lamine, 23 ans, c'est faire des sauts dans un monde que. Dans le quartier de Nantes, ouais. N'importe où, dans tous les quartiers de France, tu n'as pas l'habitude de côtoyer des gens qui font du mannequinat. C'est ce que tu fais, c'est ça en fait.
J'ai pas en parler en fait.
C'est magnifique.
Grave, tu vas faire prendre à ma place, c'est bon.
J'ai pas besoin de parler.
Moi, c'est ça. C'est ce que je fais, moi, c'est vraiment exactement la même chose pour beaucoup d'autres professions.
Ouais.
Il y a d'autres personnes, sauf que c'est moins visible. Ça se voit pas. Ah, il a fait. De telle distance à telle distance. Mais la distance qu'il a fait, lui, de Nanterre pour arriver dans le mannequinat cérébralement.
C'est vrai que c'était mental. Hein.
C'est quelque chose. Hein.
Même à l'heure actuelle, c'est encore mental. Tous les jours, c'est mental. Faut répéter. Les gens, ils pensent que tu viens, on te maquille, etc. On prend soin de toi, tu fais tes photos, après tu rentres chez toi.
Ouais, c'est pas ça. C'est un vrai boulot.
C'est pas ça du tout. Et c'est vraiment, vraiment pas ça. Par exemple, quand je dois faire un shooting à l'étranger. Je dois prendre l'avion, je dois me préparer pour prendre l'avion. J'arrive à 1h du matin, je dois me lever à 6h du matin pour aller shooter. Et moi, je travaille avec mon visage. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de mon visage, je ne dois pas être trop fatigué. On me maquille, etc. Je passe toute la journée, je fais 9h, 18h. Tu vois, je dois faire des photos, que des photos, changer de look. Et c'est compliqué. Hein. Et dans tout ça, je dois prendre soin de mon visage, je dois prendre soin de mon corps. Il y a plein de choses. Et tu n'es jamais là, ta famille n'est pas à côté de toi, ton entourage n'est pas à côté de toi. C'est compliqué. Quand je reviens. Non, c'est pas compliqué. C'est très très bien.
En fait, c'est une rigueur. Ouais, voilà. C'est une rigueur.
C'est une rigueur déjà de 1 et de 2, faut savoir gérer parce qu'il y en a que quand ils sont pas avec leur famille ou avec leur entourage, ils arrivent pas à gérer. Et il y en a plein qui font beaucoup de dépression dans le mannequinat, tu vois. Donc quand moi je reviens dans mon quartier, j'appelle directement mes proches, ma famille et je reste un maximum avec eux parce que si je profite pas d'eux à ce moment-là, du jour au lendemain, on peut m'appeler, j'ai un shooting et bam, je les vois plus. C'est comme ça.
Besoin de se ressourcer.
Ouais, j'ai besoin de me ressourcer mentalement, etc. Mais c'est compliqué le mannequinat. En plus, des fois, il y a beaucoup de choses en last minute et il y a beaucoup de choses où. Par exemple, en fait, dans le mannequinat, t'es.
Ouais, pour ça, tu m'as fait peur. Voilà. Il m'a dit, ouais, peut-être que je vais être appelé. Et tout. C'est ça. Non, parce que c'était pas là, il n'y a pas d'émission en fait.
En fait, on pose des options.
Ouais.
On va dire qu'il y a un job. Je dois faire un e-shop, par exemple. Et on va poser une option sur 10 mannequins.
Ouais.
C'est quoi un e-shop ?
C'est un e-commerce sur internet quand tu cherches les tenues que tu veux. Tu vois ce que je veux ?
Le site
de la marque. Voilà, c'est ça. Par exemple, les choses comme ça. Et en gros, on va poser des options sur 10 mannequins. Mais il y a de la place pour 4 mannequins.
Ouais.
Et en fait, ils t'envoient l'option, ils te disent quel prix tu vas être payé, etc., etc., qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 4 mannequins qui vont être pris, donc les 6, c'est mort. Et il y a beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que demain, tu te dis, ah ouais, peut-être que je peux faire ça. Et bam, au final, on dit non. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que c'est mental. Et quand on dit non, c'est l'offre où tu dois rebondir, tu dois dire, bon, c'est pas grave, la prochaine.
Ouais, du coup, parfois, ils nourrissent un espoir et tu l'as.
C'est ça. Et au final, tu l'as pas. Des fois, il y a des prix exorbitants, tu vois, parce que dans le mannequin, il y a beaucoup d'argent. Il y a des prix exorbitants, tu te dis, ah ouais, imagine, ils me prennent, je peux faire ci, je peux faire ça. Et ça m'est arrivé beaucoup au tout début, quand je connaissais pas. Parce que moi, je viens du quartier, tu vois, je connais pas les choses comme ça.
Et justement, juste avant que tu termines, on va faire juste ta petite intro. C'est bien. Okay. Non, mais c'est bien, la transition, elle a été hyper fluide. Mais pour que les gens comprennent ce que tu fais, donc j'ai Lamine, de petit boulot en petit boulot, tu as grandi au Pablo, où tes potes t'appelaient déjà le mannequin. Pourtant, tu ne t'y intéressais pas plus que ça. La SAP, t'étais déjà sensible et cet univers te plaisait quand même. Exactement. Mais ce n'est pas pour autant que tu te voyais fouler le catwalk et pourtant... Tu finis par tomber dedans comme Obélix dans la marmite, avec un physique destiné pour et une bonne étoile. À tout juste 23 ans, tu as déjà défilé pour les grands, Louis Vuitton, Balmain, Balenciaga ou encore Gucci, pour ne citer que. Malgré tout ce luxe et ses paillettes, tu as su garder les pieds sur terre et tu montres ainsi l'exemple aux plus jeunes de ton quartier. Lamine, tu es déjà destiné à une grande carrière. Voilà. Alors, on peut applaudir. De toute façon, on peut vous applaudir tous les deux, en vrai. Hein.
Bravo.
Merci. Balenciaga, c'est un e-shop. C'était pas le défilé.
Ouais, mais c'est quand même... C'est une marque, tu vois. C'est un nom.
Ouais, mais parce qu'on sait jamais, les gens, ils peuvent aller sur Balenciaga chercher ma tête dans le défilé et voir que je suis pas là. Ouais. Tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est très, très bien. Même moi, je m'en rends pas compte parce que ça arrive à moi.
Ouais.
Par exemple, il doit pas s'en rendre compte que ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Mais pourtant, je sais pas qu'est-ce que je dois te dire, mais c'est vraiment magnifique.
Et quand, c'est quoi la première fois où on t'a dit, écoute, tu vas faire un défilé ou tu vas poser, en fait, tu vois, pour tu vas porter, le nom d'une marque, etc.
Alors, j'ai expliqué ça, c'est une petite histoire. En fait, j'avais un ami à moi qui avait un autre ami, et j'allais chez lui, tu vois, il m'a connecté entre guillemets, et au final, il s'avère que cet ami, c'est un agent mère de mannequin.
Ok.
Donc, qui place des mannequins dans certaines agences pour qu'ils puissent défiler, pour qu'ils fassent du mannequinat, quoi.
Ouais.
Et donc j'allais chez lui, il me regardait une, deux fois, un jour comme ça, il me regardait.
Je t'ai pas dit, t'as kiffé.
Non, le deuxième jour, il me regardait encore. Ouais. Je dis à mon ami, mais. Pourquoi il me regarde comme ça? Il est gay, c'est comment? Il est amoureux de moi ou quoi? Je comprends pas. Et après, au bout du quatrième ou cinquième jour, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait faire du mannequinat? Moi, je regarde comme ça, je dis, quoi?
Ouais.
Après, au final, je dis oui. Et il propose mon profil à certaines agences. Et direct, les meilleures agences du mannequinat, elles disent, on veut le voir. Une agence, elle dit, on veut le voir. Deuxième agence, elle dit oui. Moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, en fait, c'est possible, je pense que je peux faire quelque chose dedans. Et pourtant, il n'y avait rien du tout encore, hein. C'était juste un rendez-vous comme ça. Ouais. C'est un truc qu'ils allaient me dire non, qu'ils allaient me mettre.
Enfin, mais il y en a qui n'ont même pas de rendez-vous, tu vois.
Donc, ouais, c'est ça. Tu vois. Moi, j'aime bien voir le côté positif. S'ils me donnent un rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose. Après, ouais. C'est moi, ma personnalité, mon caractère qui vont faire la différence, je pense. Parce que, à mon avis, le profil pour eux, je l'ai. Mais dans le mannequinat, la personnalité et le caractère, c'est très très important.
Parce mais ça, on l'oublie parce que la plupart des mannequins, en fait, on les prend pour des cintres.
C'est ça. Parce qu'il y en a qui sont timides, qui sont très timides et devant la caméra, ils ne sont pas à l'aise. Et moi, je m'amuse devant la caméra. Donc, ça fait que. C'est pour ça que je dis que le mannequinat, c'est fait pour moi. Mais tout pour revenir à tout ça, j'ai eu mes rendez-vous. Et Et j'ai eu 2-3 rendez-vous avec les meilleurs agents du mannequinat et ça s'est pas bien passé.
D'accord.
Tu vois, ça, c'est... personne ne le sait ça encore. Là, ouais. T'as une exclue. Wow, il y a que mes proches qui le savent. Oh. Et en gros, ça, ils m'ont... en gros, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. On m'a dit à un moment, ma démarche n'était pas bien.
Mais ça s'apprend, ça.
C'est ça. Ouais. Et au fil du temps, après, tu t'apprends et t'arrives à avoir une bonne démarche. Ma démarche n'était pas bien, donc c'est dire que des fois c'était par rapport à ça, des fois que mon profil ne correspondait pas à l'agence, donc on me disait non. Et après, je suis arrivé dans une agence, il m'a vu 5 minutes, il m'a regardé comme ça, il m'a dit on signe.
Ouais, il a flairé le truc en fait.
Il m'a dit on signe direct, et c'est The Clos Model.
Ok.
Et voilà, après j'étais avec mon agent mère là-bas, et j'ai signé chez eux. Et après, je suis resté. Et dès que j'ai signé chez eux, le lendemain, j'ai reçu une option pour une campagne. Et
ouais, ça a été rapide en fait.
Ouais, ça a été rapide. Et c'est de là où je vous dis que je me dis, ah ouais, si je suis pris, etc., il y a ça qui va aller. Parce que c'était à Milan. Et moi, j'ai jamais voyagé comme ça pour le mannequinat. J'ai voyagé avec mes potes en vacances, etc., genre Dubaï, etc. Mais j'ai jamais été dans des villes comme Milan, Londres. Tu vois, quand t'es à Paris, tu vas pas dire, je vais aller à Milan comme ça. Tu vois.
Capitale de la mode italienne, Milan.
C'est ça quand même. Et c'était pour une marque de costard qui s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelait. Mais c'était une bonne marque de costard en tout cas. Et voilà, donc après je me suis fait un peu d'idées. Et on m'a stoppé direct. On m'a stoppé direct. Une semaine après, je crois qu'on m'a annulé. Et un mois plus tard, il y avait la Fashion Week qui est arrivée. Et il y avait des castings. Je faisais des castings pour les grandes marques. On ne me prenait pas. Des fois, on me prenait, on me disait non, pas trop, j'aime pas trop, etc., etc. Parce qu'en fait, mon catwalk, il était pas très. Mon walk, il était pas très bien.
Ouais.
Donc ça veut dire que mon profil correspondait, mais ma marche, elle était pas bonne.
Okay.
Donc ils peuvent pas me prendre, vu que c'est les défilés qui comptent.
Et ça, en fait, excuse-moi, c'est les agences à chaque fois, ils t'envoient.
Voilà, c'est ça.
Et ils te renvoient vers d'autres et ils t'envoient jusqu'à ce que tu sois pris. Ok.
Ouais, c'est ça. Jusqu'à que, en gros, je sois pris, que j'enchaîne les jobs, etc.
Mais ils t'ont appris à marcher, justement, ou pas?
Non. En fait, ils te disent, ouais, faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Mais quand je regarde bien, dès la première semaine que j'ai fait dans le mannequinat, avec les cachings, etc., ce qui a été pris, etc., je me suis dit quoi dans ma tête? Chacun sa démarche, chacun
ouais,
son truc.
C'est ça, ouais.
C'est pas mécanique, c'est personne qui va te dire, ah, faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que eux, ils sont derrière leur ordinateur. En fait, c'est pas de leur faute. Ils sont derrière leur ordinateur dans l'agence et. Ils ne voient pas ce que nous, on voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, moi, j'ai préféré ne pas les écouter et faire mon truc à moi. Donc, ça veut dire j'ai fait mon truc à moi. Jusqu'à maintenant. Et j'ai travaillé ma démarche. Et là, maintenant, c'est très, très bien. Mais à ce moment-là, c'était il y a quoi? C'était ma première année, je crois. Ou mon premier mois, carrément. Et je suis arrivé à Louis Vuitton. J'ai fait peut-être 5 castings. J'ai fait un casting. Je suis parti les revoir. Après, c'était pas sûr. Je suis reparti encore les revoir. J'ai fait l'essayage. Et au final, ils m'ont pris. Et quand ils m'ont pris, j'étais en train de faire un lookbook.
Ouais.
Une sorte de shooting pour une autre marque. Et en fait, moi, je savais pas qu'ils m'avaient pris encore. Et quand. Et j'étais en train de shooter. Et ils ont appelé le directeur artistique de la marque. Ils ont dit ouais, dis à la mine qu'il est pris pour Louis Vuitton. En gros, je dis, on a une surprise pour lui. Dès que j'ai fini mon shooting, on m'a appelé, on m'a dit, j'ai crié carrément. J'ai appelé ma mère, j'ai crié. À l'agence, tout le monde crie, ils ont sorti le champagne et tout ça.
Ouais.
Parce que commencer par Louis Vuitton, c'est pas tout le monde qui le fait.
Bah non.
Donc c'était très bien. Et après, ça m'a lancé. J'ai fait un ou deux. À ce moment-là, j'avais fait un ou deux défilés. J'avais fait Tom Brown aussi. Et Tom Brown, dans le mannequinat, c'est vraiment bien réputé. Ouais. Et j'ai fait un ou deux défilés. Et après, ça a enchaîné. J'ai fait le festival de hier. Et j'ai enchaîné. Et il s'avère qu'aussi, moi, je travaillais à côté. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Dès que j'ai arrêté l'autre travail, parce que je me suis dit, j'ai plus le temps, c'est mort. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'allais faire que ça. Et là, à l'heure actuelle, je fais que ça maintenant.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans, j'étais sur l'année de 21. C'est ça.
C'est-à-dire que ça fait 2 ans que t'es...
Non, je crois que c'était sur l'année... J'avais 20 ans et j'étais sur l'année de mes 21. Parce que c'était en janvier. Ouais, c'est ça. Donc là, ça fait peut-être 2 ans et demi. Et en janvier, ça va faire 3 ans.
Magnifique.
Ouais.
T'imagines, c'est pas évident. Tu mets ton image face aux autres et tu leur dis, hey,
jugez-moi aussi.
Jugez-moi. C'est
ça.
Et se faire refouler. C'est ça.
Non, mais il faut être fort. Il faut être très, très fort. Après, parce que tu es jugé aussi constamment, mine de rien. Parfois, tu as des mannequins qui sont pris, il suffit que, hop, tu sais, il y a un petit laisser-aller, etc.
C'est ça, exactement. C'est un milieu qui est
extrêmement dur. Hein.
Parce que dans le mannequin, il y a beaucoup de personnes qui boivent de l'alcool. Tu vois. Et l'alcool, il faut savoir que l'alcool, ça fait grossir le ventre.
Ouais.
Tu vois. Donc.
C'est l'hygiène.
Ils ont plus le même fit. Donc, au final, des fois, ils se font recale à cause de ça.
Et tes parents, ils n'ont pas eu peur, tu vois, de ce milieu-là, justement.
Alors, moi, il s'avère qu'avant de commencer le mannequinat, j'ai dit à personne, ouais. Même mes vrais frères, même ma famille, je ne leur ai pas dit. J'en ai parlé juste à ma mère et je ne lui ai pas dit que j'allais faire du mannequinat. Je lui ai demandé, t'en penses quoi du mannequinat?
Ouais.
Elle m'a dit, non, ça, c'est un monde. Tu connais, tu connais.
Ouais.
Ça, c'est un monde qui est... On a une image du mannequinat, en fait, c'est... Il y a que des personnes qui sont pas dans notre monde. Et
c'est pas le monde de quelqu'un qui vient de Nanterre, etc. Enfin, voilà quoi.
Et elle m'a dit, c'est pas un monde pour toi. Je pense que tu devrais pas faire ça. Tu peux voir de ton côté, etc., si ça te plaît ou pas. Mais moi, en tout cas, je suis pas trop convaincu par ce milieu-là. J'ai dit, maman, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Dès que j'ai fait LV, je l'ai appelé, je lui ai dit, elle m'a dit c'est très bien. Et depuis, elle me laisse tranquille.
Ouais, est-ce que tu l'as prouvé? Donc ouais, parce que je l'ai prouvé.
Je l'ai prouvé. Et voilà, en tout cas, c'est une fierté et je suis très, très, très content.
Et justement, c'est quoi pour toi, à ton avis, qui a fait la différence aussi pour que ça marche aussi rapidement, tu vois?
Je pense parce que je suis resté moi-même. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent changer pour le mannequinat. Il y en a même qui sont injectés, des garçons qui sont injectés des choses dans les lèvres pour grossir les lèvres.
Okay.
C'est,
ouais.
Tu vois.
Bah c'est le milieu qui... Enfin, ouais, c'est un milieu
c'est ça,
qui...
Ouais. C'est ça le truc. Moi, je pense que je suis resté moi-même. Je suis resté le même. Et malgré les échecs, entre guillemets, quand on me dit non pour un travail, eh ben, je suis resté le même et je suis resté fort dans ma tête. Ça fait que, au final, eh ben, j'en suis là où je suis. Parce que je sais très bien que je suis pas... N'importe qui, entre guillemets, dans le milieu. Par exemple, là, je suis en haute liste. Là, en ce moment, on m'a rentré dans le rang de haute liste.
C'est quoi, ça?
Ça veut dire que, en gros, y a, dans le mannequinat, il y a top 50 mondial. Il y a les money guys, ceux qui font le plus d'argent possible. Et il y a les haute liste. Et haute liste, c'est juste en dessous du top 50. Et ça veut dire que je fais partie des meilleurs mannequins dans le monde.
Magnifique.
Je vois.
C'est bon, ça?
Ouais.
Franchement, tu ramènes pas n'importe qui à Radio Agora.
Bah non. Wow. Je sélectionne bien mes invités.
Ballon d'or.
Bah, j'ai deux ballons d'or là. Hein.
Mais là, concrètement, moi je les vois. C'est une question que j'avais tout le temps en tête. Du coup, j'y connais pas grand chose au milieu du mannequinat, etc. Mais tu les vois tous, la plupart du temps, sur les podiums, sur les défilés, etc. Ils sont ultra taille fine, ils sont sveltes, ils doivent faire un certain poids, etc. Comment tu fais pour respecter ça, en fait, dans ton quotidien?
Après, par rapport au respect de tes mesures, de tes mensurations plutôt, et ben ça, c'est plutôt pour les filles où ça doit être vraiment pointilleux, etc. Je connais des mannequins filles.
C'est toujours plus dur pour les femmes.
C'est vrai, parce que eux, ils sont en gros les mannequins filles, c'est les footeux chez les garçons.
Ah, il y a là la concurrence.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et nous, on est les filles dans le foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois,
et c'est pareil au niveau du salaire,
justement. C'est ça, dans le salaire,
ouais,
dans tout.
Ah, ouais, donc c'est la guerre.
Ouais.
Ça se joue au millimètre, quoi.
C'est ça, ça se joue au millimètre. Il y en a qui ont raté des défilés Dior, des défilés Prada pour ça.
Ah, elles se suicident.
Mais il y a un gros sujet hein, là-dessus. C'est...
Ah, et après, c'est...
C'est plus... On va dire que le milieu masculin est quand même plus sain là-dessus que le milieu féminin.
C'est ça, exactement.
Longtemps, les mannequins, c'était une pomme et un coca zéro, quoi.
Voilà, c'est ça.
On s'arrête à ça, quoi.
Et après, attention, parce que justement, les gens croyaient ça. Et même moi, je croyais ça avant de rentrer dans ce monde-là.
Après, ça dépend des morphologies. T'en as où c'est de la privation, et t'en as, c'est en fait le ectomorphe, tu vois, le physique est comme ça. C'est que tu peux manger, en fait, tu brûles ce que tu consommes.
C'est ça, exactement. Moi, je peux faire quelques écarts parce que moi, j'ai mon corps et il est comme ça depuis que je suis gamin. Tu vois, j'ai toujours été très mince et grand. Donc, ça fait que je peux faire quelques écarts.
Tu mesures combien ?
Je fais 1m87. Là, ça va, les gens m'ont rattrapé, mais quand j'étais petit, j'étais vraiment.
C'est quand même grand, 1m87. Le grand. Ouais.
J'étais le grand, quoi.
Ouais.
Mais là, ça va. Lui, déjà, il fait 1m93, 94, je crois.
Et ils me regardent tous. Oui, moi, je suis à peu près même, la même taille. Hein. À 10 cm de moi.
Non, ah, j'adore. Ouais. Mais, et tout ça, pour, je sais plus où j'en étais.
Naturellement, tu as cette morphologie.
Ouais. Voilà, j'ai cette morphologie. Donc, ça fait que je peux faire quelques écarts. Après, il y en a qui prennent beaucoup plus vite que d'autres. C'est normal. Mais moi, en tout cas, par rapport à, au respect de...
Mais ça s'est ouvert encore, quand même, ça. On voit plus, enfin, pas autant, je trouve, que ce qui devrait être, mais quand même, on voit plus de corps différents. Après, ça dépend des marques. Et aussi de silhouette, mais aussi de peau, tu vois, de couleur de peau différente. Parce qu'avant, c'était quand même un milieu très fermé, ouais.
Il y a énormément de
Et même les milieux. C'est-à-dire, tu parlais des milieux, c'est quand même plus un milieu assez riche, tu vois, plutôt qu'ouvert aux personnes d'autres, enfin, des quartiers, quoi.
Bah, mon premier défilé Louis Vuitton, et ben j'ai rencontré quelqu'un qui vient d'un du Seb Bouzemita. Je l'ai rencontré, même chez G, il a même famille que toi. Et ben je l'ai rencontré à Louis Vuitton, et depuis c'est mon frère. On est tout le temps ensemble, dès qu'on fait un truc, on est tout le temps ensemble.
Il est mannequin aussi.
Il oscille les mannequins. Tu vois.
Il fait 1m87.
Il fait 1m89 exactement.
Ah ouais, c'est le premier Bouzemita qui a dépassé les 1m80. Déjà c'est.
Et là même récemment, on a fait Hermès ensemble. On a fait Hermès ensemble en juin et en janvier.
Je suis fier.
Ouais.
Je suis fier.
Et voilà, c'est en tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est très difficile. Très, très, très difficile.
Et t'as voyagé où? Fais-nous rêver un peu.
Je suis allé à Londres trois fois ou deux fois.
Meilleure ville au monde. Tout à l'heure, je disais mauvais pays, mauvaise capitale. C'était la ref pour Londres. Pour moi, c'est Londres.
T'es né à Londres, alors?
Ouais, intérieurement, on va dire.
Je suis allé à Londres trois fois, je crois. Milan, je suis allé peut-être 5-6 fois. Je suis allé en Suède aussi. Je suis allé où encore? En Finlande. Je suis allé en Finlande.
Ouais.
Et ça, c'est des villes où je vais souvent. Les Finlande, Italie, etc., etc. Je suis allé où encore? Je suis allé dans le sud de la France pour faire un festival. Je suis allé aussi en Allemagne, je suis allé beaucoup en Allemagne.
Ouais.
Je suis allé énormément en Allemagne. Et
mais du coup, bientôt New York, quand la restriction.
En fait, j'ai signé dans une agence aux États-Unis, mais c'était pendant le confinement.
Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai. Donc, que je t'ai dit, je pense que c'est après le confinement.
Donc ça m'a tué.
Ouais.
Mais je pense que j'aurais pu y aller.
Mais c'est un kiff de dire que je vais aller défiler à New York.
Ouais, j'allais y aller, je pense que j'allais y aller, je pense. Avec l'enchaînement que j'ai fait, avec les choses que j'ai pu faire.
Mais c'est pas trop tard, hein.
Non, parce que là-bas, c'est par, même si t'es mannequin et t'as fait certaines choses, et ben ils regardent ce que t'as fait précisément. Et il faut que t'aies atteint un minimum de travail, tu vois. Donc faut avoir 60 pages, je crois, sur Modèle Dot, sur le site officiel des mannequins, pour pouvoir aller faire la Fashion Week à
New York. York. Ouais. Du coup, c'est la plus dure, celle de New York, c'est pas celle.
Non, c'est pas forcément la plus dure. C'est la moins accessible, on va dire.
Ok. Ouais.
La plus dure pour moi. Hein.
Et à Paris, t'as déjà défilé à Paris?
Ouais, à Paris, j'ai fait énormément de défilés. Je crois que c'est l'endroit où j'ai plus défilé.
Ouais.
Et je crois que c'est la Fashion Week la plus dure que pour un mannequin, je pense.
Paris, c'est dur. Ouais, Paris, c'est la capitale mondiale.
C'est dur comment par rapport à... Qu'est-ce qui fait que c'est plus dur?
En fait, c'est dur dans le sens où les directeurs de casting, ils vont te voir, il y a un petit truc qui vont pas apprécier chez toi. Dehors, tu vois.
Les Parisiens et toujours qu'est-ce que tu veux y faire?
Et dis-toi en plus dans tout ça, c'est quoi? Quand ils ont un mannequin en tête ou ils ont un nombre de mannequins, c'est trop dur de rentrer dans leur liste. Ils vont garder leur mannequin pendant peut-être 2-3 saisons, tu vois. Pendant 2-3 ans, ils vont le garder. Et ça, c'est dur pour nous, pour ceux qui sont pas dans le mannequinat. Par exemple, Dior. Il s'avère qu'ils ont leur mannequin depuis au moins 3-4 saisons. Et moi, j'aimerais bien le faire. Tu vois, c'est pas un rêve pour moi, mais j'aimerais bien le faire parce que c'est l'un des seuls trucs que j'ai pas fait. Et pour rentrer, je sais très bien que c'est mort maintenant pour rentrer parce qu'ils ont, leur mannequin. Et les mannequins qui arrivent à rentrer chez eux,
c'est mort maintenant. Ça veut pas dire que c'est mort plus tard.
Non, mais dans ma tête. Ouais. Par exemple, si demain il m'appelle, je me donne à fond, etc. Mais moi, je sais très bien qu'il faut pas que je me fasse de faux espoirs, quoi.
Okay.
Je suis lucide. Et. Les mannequins qui arrivent à rentrer chez eux, eh ben c'est des mannequins qui viennent de commencer le mannequinat.
Mais ça, c'est super intéressant. Moi, je ne connais pas du tout ce monde. Et tu parlais de foot tout à l'heure. Dès que tu arrives, est-ce que tu as une. Nous, par exemple, un footballeur, à part Ronaldo et Messi et machin, bidule,
on va savoir qui il est.
À un certain âge, ça a été.
T'as une date de péremption.
Est-ce qu'il y a une histoire d'âge avec vous? Est-ce que c'est juste des one-shots sur un défilé? Est-ce que vous faites des contrats sur 2-3 saisons? Après, ta tête, dès qu'elle est ripée sur un truc, peut-être que c'est bon, ils veulent plus te voir. Peut-être, j'en sais rien. Moi,
c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que le mannequinat, tu fais ton job, c'est fini. T'as un contrat pour le job, pour la journée du job, ou peut-être pour les journées de job, et c'est fini. Après, s'ils t'aiment bien, ils te rappellent. Mais il y a des mannequins qui durent peut-être pendant un an et demi, deux ans, ils vont tout péter, du jour au lendemain, plus rien.
Tu vois ? Il y a eu plein de comme ça.
Il y a plein de gens comme ça. Il y a énormément de personnes comme ça. Après, c'est la dure loi du mannequinat. Hein.
Parce que tu regardes des magazines, tu vois la personne qui porte la montre, etc. Mais si chaque année, tu revois tout le temps peut-être un parler,
c'est voilà, c'est ça. Star, t'as pas envie c'est de voir redondant, en fait. Ils aiment pas trop ça.
Donc,
ils aiment bien
une fois. Et donc, juste tout le temps, comment ça se passe?
Ça dépend. Il y a des marques qui t'appellent. Tu fais leur job. Pendant peut-être 3 mois, ils vont plus te rappeler. Après, bam, ils vont te rappeler. Tu vois, ça dépend. Tu vois, mais en fait, entre-temps, toi, t'auras tourné un peu partout. Donc, ça veut dire que tu vas pas rester comme ça. Généralement, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est des fois, on m'appelle, je fais mon job. Je le fais bien, je le fais souvent. J'essaye d'être le plus professionnel possible.
Mais si on te rappelle, c'est que tu le fais bien.
Voilà. Et des fois, même, ils te rappellent pas, mais c'est pas parce qu'ils t'aiment pas. C'est parce que des fois, ce qu'ils recherchent, ça correspond pas à ton profil. Donc, c'est comme ça, c'est le mannequinat. Ils ont une idée en tête, ils ont besoin de ce mannequin-là. Ils ont besoin d'une peau blanche, ou d'une peau métissée, ou d'une peau un peu plus foncée. Donc ça dépend, c'est toi et ta chance, et c'est toi et le feeling que tu as eu avec eux. C'est comme ça.
C'est-à-dire que tu peux te dire qu'il y a possibilité que tu sois mannequin toute ta vie, en fait.
C'est ça.
Il y aura quelqu'un à un moment donné, il aura besoin de tel type de peau, de tel âge, de tel truc. Exactement. Seras dans le cadre.
Après, il y en a qui fonctionnent 2 ans et qui arrêtent, mais c'est le mannequinat qui les a arrêtés. Il y en a qui arrivent pendant peut-être 15 ans, 20 ans à faire que du mannequinat. Parce qu'ils ont gardé le même corps, ils ont gardé la même tête, ils ont rien changé sur eux, quoi. Tu vois. Et là, moi, déjà, ça fait déjà 3 ans. Au début, je me suis dit, au bout de 3 ans, c'est sûr que ça va peut-être un peu plus baisser. Et il n'y a même pas une semaine, je suis en hot list.
Magnifique.
Tu vois. Donc ça fait que, tu vois, ça me rassure, entre guillemets, mais avec le mannequinat, tu ne peux pas être rassuré. Parce que du jour au lendemain, tout peut péter. Et ça, il faut être prêt mentalement et il faut avoir une porte de sortie. Par exemple, l'école, des formations, je ne sais pas, n'importe quoi, des formations d'ambulancier, n'importe quoi. Et voilà.
C'est dur de se dire, je suis un produit jetable, en fait. C'est dur.
Et moi, je ne réfléchis pas. En fait, je ne réfléchis pas comme ça. Je le sais, c'est normal. Parce que si tu ne sais pas, tu es bête. Moi, je le dis clairement. Si tu ne sais pas que demain, le mannequinat, ça peut s'arrêter... T'as pas les pieds sur terre et tu manques d'intelligence. Parce que c'est comme ça. Avec tout ce que je viens de t'expliquer, c'est normal que tu te dises « Ah ouais, mais on sait pas ce qui est fait demain. » Alors qu'en plus de ça, ça me prend énormément de temps. Ça veut dire que je fais du mannequinat, mais il y a des choses que je peux pas faire à côté. Donc ça veut dire que c'est un risque à prendre. Mais ce risque, je le prends parce que je sais que je peux travailler dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est un mélange de risques, mais je sais pas comment l'expliquer, mais j'arrive à me gérer par rapport à ça.
Mais t'as assuré tes arrières.
Voilà, mais j'assure mes arrières derrière, parce que demain, si ça arrête, moi j'ai mes plans, j'ai des choses à faire.
Magnifique.
Ouais.
C'est ça.
Trop bien.
Bah, je suis obligé, hein, sinon ma mère elle sera pas contente.
Mais même toi, plus tard.
Ouais, même pour moi. Pas.
Après, ce qu'on te souhaite, c'est que tu dures encore.
Moi, c'est ma mère d'abord et après, c'est moi. Moi, ça a toujours été comme ça. Toujours dans tout.
Et justement, est-ce que toi aussi, t'as un rêve?
Un rêve?
Ouais. Où est-ce que tu te verrais dans 10, 15 ans?
Un rêve, c'est déjà mon rêve, entre guillemets, je l'ai eu parce que je fais du mannequinat, je voyage. J'ai des sommes que jamais j'aurais pu avoir dans ma vie en étant mannequin. Et déjà, ça, c'est mon rêve que j'ai réalisé, je pense. Mais pour plus tard, déjà là, je vis du mannequinat. Mais pour plus tard, J'aimerais peut-être ouvrir quelque chose avec le mannequinat.
Ouais.
Et...
L'ouvrir peut-être à des personnes, enfin des.
Non, des ouvrir, milieux où ouvrir, c'est fermé. Ouvrir, ou... ouvrir un commerce avec le mannequinat. Un très très bon commerce, pas un commerce basique, un très très bon commerce avec ma, je sais pas, avec ma, ma femme ou des amis à moi, je sais pas. Et continuer ma vie, quoi. Qui fait ma life, hein, comme je dis tout le temps.
C'est tout ce qu'on te souhaite.
Ouais, j'espère en tout
cas. Mais t'as pas peur un peu des gens qui du coup sont là juste par intérêt, tu vois?
Ouais, ça, il y en a beaucoup. Après, moi, je le vois de partout. Après, on peut parler, les personnes comme ça, on peut parler ensemble, on peut même rigoler ensemble, mais je sais quitter.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais quitter et je sais très bien qu'il y a une barrière à ne pas dépasser avec cette personne-là. Tu vois? Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. En plus, j'ai un entourage aussi qui me conseille, qui me dit que cette personne, elle est comme ci, comme ça. Je ne vais pas forcément l'écouter parce que peut-être qu'elle aussi, elle peut se tromper. Ouais. Mais en tout cas, je vais enregistrer cette information et le voir de moi-même.
Ok.
Mais il y en a énormément, énormément dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que ça, ça peut apporter de la visibilité. Les gens peuvent croire que tu gagnes des millions d'euros, donc ils vont venir. Il y a plein, 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 plein de choses. Mais moi, j'ai pas envie de voir les choses comme ça. Parce que si tu vois les choses comme ça, au bout d'un moment, tu vas plus avancer. Tu vas avoir que ça dans la tête, ouais, tu vas être fatigué.
Parano, en fait,
tu vas être fatigué mentalement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je préfère laisser ça de côté. Je le sais, hein, je ne suis pas bête. Je laisse ça de côté et je profite avec mes frères, ma famille et voilà.
Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, du coup, Lamine. Merci beaucoup, merci Lamine. Alors, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver, du coup?
Ah oui, mon Instagram, c'est Lamine Fati, L-A-M-I-N-E, 2-du-bas, pas 1, Fati, F-A-T-Y.
Parce que vu que c'est pas assez grand, il en faut. Voilà. Et du coup, Ilyes, on rappelle aussi tes réseaux sociaux.
Alors, Ilyes The Challenger, I-L-Y-E-S, I-L-Y-E-S, donc The Challenger, donc commence avec deux L, The Challenger. Ouais. Le mec qui est à côté de la Tour Eiffel, c'est mon dada, je suis parisien forever. Même la ville où je suis en Tunisie, où sont originaires mes parents, c'est Zarzis. Donc moi, j'ai mis que je suis The Parisian. P-A-R-I-2-Z-I-E-N. Il faut,
pas mal.
Il faut mettre des petites punchlines toujours. Retour aux sources. La psissa, si tu la places pas, t'as pas réussi.
Et moi, je suis nantérien, moi, et fier de l'être.
Ouais.
T'es quoi? Ah ouais, Nanterre. Ah oui.
Et oui. Et on se trouve à Nanterre.
Magnifique.
Voilà. Bah, merci à vous. Merci d'avoir écouté, du coup.
Merci à toi.
Bah, merci. Moi, c'est mon boulot. Et n'hésitez pas du coup à nous suivre sur aussi nos réseaux sociaux, donc sur le compte Instagram de l'émission Ça va parler sur Instagram. On se retrouve très vite et à bientôt.
Merci, bonne journée à vous.
Ça va parler, ça va parler, ça va parler.